9h42 ici à Paris, une petite vingtaine de minutes encore ensemble dans RFI Matin. On rappelle nos correspondantes à Kinshasa, à Manille, à Rio de Janeiro et à Mexico. On s'intéresse ce matin à la situation des enfants de rue. Hier, une journée internationale leur était consacrée. Et puis, restez avec nous, on se quittera en musique avec Queen Rima, la grande gagnante du prix RFI Découverte 2025. On écoutera l'un de ses titres, Chocolat. Tout de suite, le journal des sports. La dernière ligne droite, Victor Misistrano. Et pour commencer, du cyclisme avec aujourd'hui l'une des courses les plus prestigieuses de l'année, Paris-Roubaix.
Oui, c'est une course extrêmement difficile au départ de Compiègne pour 259 km sur les routes du nord de la France. 55 de ces kilomètres seront sur ces pavés qui ont fait la légende de la reine des classiques. Cette 122e édition sera la toute première pour le champion du monde et vainqueur sortant du Tour de France, Tadej Pogacar. Néophyte également, l'autre visage de la dernière grande boucle, le vainqueur du maillot vert, Binyam Girmay. À 25 ans, l'Érythréen aborde cette course avec enthousiasme.
J'aime cette course et je pense que c'est le bon moment pour m'y tester. Je suis bien préparé, j'ai passé la saison des classiques sans chute, sans problème. Je suis d'attaque, donc avec l'équipe, on s'est dit, allez, pourquoi pas, c'est une bonne expérience. J'ai reconnu les pavés et je me suis senti à l'aise, mais l'entraînement et la course, bien sûr, c'est complètement différent. Au moins, j'ai repéré les passages importants, les passages dangereux aussi. Donc, je vais essayer de trouver le bon tempo. On verra bien.
Binyam Girmay au micro RFI de Thomas de Saint-Léger. Thomas qu'on retrouvera en direct dans le journal de 11h de Paris pour le premier point de la journée. Et puis, sur les routes de Côte d'Ivoire, cette fois, la route de l'Est international s'est achevée hier par la victoire après 4 étapes de l'Allemand Daniel Bichelmann, déjà vainqueur du Tour du Faso Nemo en 2021.
Du football, Victor, le championnat de République démocratique du Congo se termine bientôt la phase finale.
10 des 12 tickets pour ces playoffs ont trouvé preneur. Au rendez-vous, les Cador congolais, le TP Mazembe, la AS Vita Club ou encore le Saint-Éloi Loupopo. Pas, en revanche, de Daring Club Motema Pembe pour l'instant, puisque le club est en difficulté cette saison. L'équipe basée à Kinshasa dispute aujourd'hui une véritable finale face au Maniema Union. Victoire impérative, même si Olga Massangou, la tâche s'annonce particulièrement difficile.
Loin de sa base, le Daring Club Motema Pembe doit sortir le grand jeu pour s'imposer face à une équipe de Maniema Union qui n'a perdu qu'un seul match après 18 journées de championnat. Mission pas facile, a reconnu Barthélémy Gantsono, coach du Daring.
En face de nous, nous avons une très très grande équipe qui sort d'une compétition africaine. C'est pratiquement le même groupe, ça veut dire que ça va être dur à cuire. On a tenu compte de tout cela et voilà, on a mis en place des petites palliatives pour chercher à gagner une place pour le play-off.
La qualification pour les play-offs est pour l'instant une équation difficile pour les Verts et Blancs de Kinshasa. Non seulement ils doivent impérativement s'imposer devant Maniema Union, mais aussi ils dépendent des résultats des matchs Angevin-New Jack et c'est l'Est Renaissance du Congo.
Les supporters ont besoin de ça puisque nos supporters suivent leur équipe depuis Kinshasa. Et ils savent qu'il y a quand même une amélioration.
5 fois vainqueur de la Ligue 1, Motema Pembe, qui a timidement relevé la tête après un début de saison cauchemardesque, espère atteindre les play-offs puis se battre pour les 3 places qualificatives aux Coupes d'Afrique des clubs. Le contraire risque de plonger encore plus ce mythique club dans une nouvelle crise. Olga Massangou Kinshasa, RFI.
Maniema Union, DC Motema Pembe, coup d'envoi 13h30 temps universel.
Et puis on termine par du basket, la Basketball Africa League.
Oui, au Maroc, une étape se termine aujourd'hui pour les 4 équipes de la conférence Kalahari. Les 2 premières seront qualifiées en quart de finale, c'est déjà fait pour Al Ittihad d'Alexandrie. Les Égyptiens auteurs d'un sans faute, 5 victoires en 5 matchs. Deuxième, les Nigérians de River Soopers sont bien partis pour les imiter, d'autant qu'ils affrontent aujourd'hui le Stade Malien qui a perdu tous ses matchs.
Merci Victor, Missy Strano, et puis on continue de suivre les athlètes du Marathon de Paris. 1h45 de course, le Kenyan Bernard Biwott est en tête pour le moment, une dizaine de secondes d'avance sur le Djiboutien Ibrahim Hassan.
RFI, toute l'actualité, Nemo en piste.
Les principaux titres de ce dimanche 13 avril 2025. La défense civile palestinienne à Gaza annonce cette nuit qu'une frappe aérienne israélienne a touché l'hôpital Al-Ahli à Gazaville, sans que l'on sache pour le moment s'il y a des victimes. De son côté, l'armée israélienne a simplement répondu à l'AFP qu'elle examinait ces informations. C'est un pas en avant pour Washington, une atmosphère constructive basée sur le respect mutuel, dit Téhéran. Première rencontre de haut niveau entre États-Unis et Iran hier à Oman. Elle s'est conclue sans avancée signalée sur la question du nucléaire iranien, mais avec la promesse de se revoir dès samedi prochain, selon le ministre iranien des Affaires étrangères. Se revoir avec Steve Witkoff, l'envoyé du président américain Donald Trump sur la question.
RFI Matin.
Notre tour du monde des correspondants. Au lendemain de la journée internationale des enfants, dit des enfants de rue. Hier, nous recevions dans RFI Matin Guillaume Lardanché, directeur de l'association Hors la Rue. Et ce matin, nous sommes sur le terrain. On prend le pouls de la situation dans quatre pays. D'abord, en République démocratique du Congo, à Kinshasa précisément. 17 millions d'habitants dans la capitale et parmi eux, les Cheguets, présents dans tous les quartiers de la ville. Voilà près de 50 ans que des acteurs de la société civile alertent sur leur présence. Pauline Azidi, mais aussi et surtout sur l'absence de structure pour les accueillir.
Difficile d'estimer ici le nombre de Cheguets qui sillonnent la ville et vivent de mendicité, de petites activités ou encore de vol. Au moins 20 000 estiment les associations. En 2024, le réseau des éducateurs des enfants et jeunes de la rue avait révélé avoir répertorié près de 50 000 enfants des rues dans la capitale ces 10 dernières années. Ces enfants sont le plus souvent abandonnés par des parents qui n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins dans une société gangrénée par la pauvreté. Près de 60% de la population congolaise vit avec moins de 2 dollars par jour. Régulièrement, les autorités annoncent des opérations policières pour lutter contre ces Cheguets. C'était une nouvelle fois le cas à Kinshasa au mois d'octobre dernier. Mais pour les associations, il faudrait travailler sur leur réinsertion au risque de les voir rejoindre les gangs surnommés les Kulunas.
Vous l'aurez compris, difficile d'estimer combien ils sont à Kinshasa. C'est un peu plus précis. En revanche, à Manille, aux Philippines, ces enfants de la rue seraient près de 250 000. Là aussi, trop souvent contraints de se débrouiller seuls. Beaucoup sont collecteurs d'ordures. Parfois, ils doivent se prostituer. Ces enfants n'ont accès à rien. Alors, associations comme Législateurs se battent pour qu'ils bénéficient de plus de considération. Et ce matin, notre correspondante à Manille, Nemo Lecoq-James, nous dit que certains d'entre eux n'ont même pas de certificat de naissance.
Dans les rues, ils sont bien là, mais sur le papier, ils n'existent pas. Ici à Manille, beaucoup d'enfants des rues sont complètement invisibles aux yeux de la loi. En fait, ils n'ont pas de certificat de naissance. Ils sont souvent nés dans des conditions très précaires, à la maison, dans des bidonvilles, et ils n'ont pas été officiellement reconnus. Résultat, ces enfants n'ont donc aucun droit, pas le droit d'aller à l'école, d'avoir accès à un suivi médical ou une protection sociale. Pourtant, en principe, aux Philippines, l'enregistrement des naissances est une obligation légale. Hein. Mais dans les faits ici, reconnaître un enfant, c'est compliqué pour certaines communautés précaires. Il faut faire une démarche en ligne ou en physique, il faut savoir lire, écrire et parfois même payer si l'enregistrement est fait avec du retard. Selon les chiffres officiels, il n'y aurait pas moins d'un million d'enfants philippins sans acte de naissance. Alors ici, plusieurs ONG se battent pour faire passer un projet de loi qui vise à rendre les procédures plus accessibles et plus inclusives.
Nemo Lecoq-James, correspondante de Radio France Internationale aux Philippines. Ces enfants sont donc appelés Cheguets en RDC, vous l'avez entendu. Ils sont appelés Meninos da Rua au Brésil et ils sont des figures emblématiques dans les grandes villes comme Sao Paulo ou Rio de Janeiro. Sarah Cozzolino, vous nous dites qu'ils subissent de plein fouet le racisme structurel.
Oui, ils font souvent la manche ou vendent des sucreries aux passants ou aux automobilistes arrêtés au feu rouge. En grande majorité, ce sont des garçons. Ils sont noirs, originaires des favelas ou des banlieues pauvres. Ils seraient 24 000 dans le pays, selon une étude qui date de 2011, mais les données ne sont plus actualisées. Selon certains défenseurs des droits humains, si on ne les compte pas, c'est pour mieux les exterminer, car ils sont fréquemment victimes de violences policières, considérées d'office comme des voyous ou de futurs bandits. Il y a 30 ans, le massacre de Candelaria à Rio de Janeiro est devenu un symbole de cette violence. Le 23 juillet 1993, alors qu'une cinquantaine de jeunes dormaient sur les marches de l'église de Candelaria, 8 jeunes, dont 7 mineurs, ont été tués par la police. Aujourd'hui, les assassinats d'enfants innocents continuent, notamment lors des opérations policières dans les favelas.
On termine ce tour du monde au Mexique. Là-bas, une personne sur 3 est mineure et une sur 2 en situation de pauvreté. Selon les chiffres de l'ONG World Vision, plus de 5 millions d'enfants et d'adolescents vivraient dans la rue ou du moins en dépendraient, bien souvent mis à contribution par les familles. Gwendolina Duval.
Les enfants dans la rue sont les premiers concernés par le travail infantile. Au Mexique, il n'y a pas de chiffre officiel, mais en 2022, selon une enquête nationale, 800 000 enfants entre 4 et 17 ans travaillaient plus de 35 heures par semaine. Du travail informel, dans les villes, on retrouve ces enfants au carrefour à nettoyer des pare-brises pendant les feux rouges, ou bien ils déambulent pour vendre des sucreries et toutes sortes de petits objets, souvent avec un de leurs parents. Il s'agit d'enfants qui grandissent au sein de foyers vulnérables. Au Mexique, la moitié de la population est en situation de pauvreté. Déscolarisés, ils sont aussi plus exposés aux violences et aux drogues. Au Mexique, il y a cette problématique des enfants recrutés par les groupes criminels. L'ampleur du phénomène est méconnue, mais des travaux universitaires mettent en évidence l'emploi des mineurs pour vendre de la drogue ou bien effectuer des missions de surveillance. L'État ne parvient pas à se saisir du problème. Au Mexique, l'autre phénomène qui plonge les enfants dans la rue, c'est la migration. Ces dernières années, des millions de personnes et des familles ont traversé le pays pour tenter d'aller aux États-Unis. Aujourd'hui, beaucoup sont toujours coincés dans le pays. Donc, en plus d'une déscolarisation prolongée, du danger des routes. Les enfants vivent dans des refuges ou des camps improvisés.
Gwendolina Duval à Mexico. Merci également à Paulina Zidi à Kinshasa, à Nemo Lecoq-James à Mani, à Sarah Cozzolino à Rio de Janeiro pour ce tour du monde des correspondantes. C'est la musique, le jingle, la chronique Afrique en marche de Frédéric Gara. Au Burkina Faso ce matin, où deux jeunes entrepreneurs se sont lancés dans la création d'une boîte à outils électrique, un objet qui permet à un foyer par exemple de bénéficier d'une énergie quasiment gratuite. Cette énergie, c'est l'énergie solaire.
En fait, le ménage il passe de zéro accès à l'énergie à un accès complet, c'est-à-dire avec l'électricité, la lumière et du multimédia.
Sur le stand Vivatech de Paris, où il exposait en mai dernier, Abdelhadissa, le cofondateur d'Aliot System, ne manque pas d'enthousiasme pour présenter son invention, la Terrebox. Terrebox, littéralement, la boîte solaire en langue Dioula.
C'est le produit le plus distribué depuis qu'on a commencé. Ça fait, on en a au moins 35 000 au Burkina. 35 000.
Vous avez vendu 35 000 Terrebox?
Oui, en milieu rural et en périphérie. Mais même dans le monde urbain, il y en a qui en prennent.
Une boîte grosse comme une armoire à pharmacie, branchée sur un panneau solaire, reliée à un équipement de base pour les familles burkinabées, celles qui vivent dans les zones les moins bien distribuées, en réseau électrique. Christophe Tougri, cofondateur et président d'Aliot System, le promoteur de la Terrebox.
Comment ça fonctionne? Terrebox, ça sort avec une box intelligente qui permet d'accumuler l'énergie et de distribuer sur plusieurs types d'utilisation. On a les lampes, on a la télé, on a le ventilateur et puis on a le système de recharge de téléphone. Et dans le profil d'utilisateur de la Sonabel, qui est la Société Nationale d'Électricité au Burkina, ça correspond à quelqu'un qui est branché sur un segment de 3 ampères. Le panneau, il est sur le toit, la box à l'intérieur. En fait, on fait le système de câblage pour les lampes. Donc il y en a 6 au salon, dans les chambres où la femme qui vend les cacahuètes dehors et pour les élèves, les enfants qui sont sur la terrasse de pouvoir aussi étudier. On a une torche, une radio qu'on donne pour permettre au chef de foyer d'être tranquille sur son fauteuil, d'écouter RFI et puis de regarder la télé aussi, voilà, et de recharger son téléphone.
Je crois qu'il y a un interrupteur, c'est-à-dire que quand on ne se sert pas de la box, on peut éteindre et ça conserve l'énergie?
Ça conserve l'énergie. Alors, en journée, il recharge les batteries et il permet de consommer. La nuit, c'est les batteries qui prennent le relais pour distribuer l'énergie au ménage.
Même si les composants sont fabriqués en Chine, l'assemblage s'effectue à Ouagadougou grâce aux 50 employés que compte l'entreprise depuis 2017. Les deux cofondateurs ont lancé l'aventure Aliot System en revenant d'expatriation au Faso et en misant toutes leurs économies, 60 000 euros. Un projet un peu fou, mais sur lequel a aussi parié Orange. L'opérateur téléphonique s'est associé aux deux patrons burkinabés en permettant le prélèvement via Orange Monnaie des factures pour l'achat du kit Terrebox. Elisabeth Tchungi, directrice exécutive RSE au sein d'Orange.
Alors moi, je suis convaincue de deux choses. La première, effectivement, ces startups apportent des réponses à des besoins locaux. Mais je vais plus loin. Je pense aujourd'hui que l'Afrique est le premier continent de l'innovation dans le monde, dans le contexte que l'on connaît de transformation durable, indispensable des économies sur le volet environnemental, sur la manière dont on peut combler les inégalités sociales, et les deux sont liés. Et la créativité des startups africaines qui évoluent justement dans un contexte parfois complexe, l'approche d'une innovation au bénéfice de tous, je trouve que ce sont des startups qui ont des leçons à donner au monde entier. Donc je suis absolument convaincue que l'Afrique est le continent de l'innovation absolument pivot pour répondre aux grands enjeux de transformation de notre siècle.
L'un des enjeux du siècle, c'est aussi le transport propre. L'autre projet de Christophe Tougri et d'Abdallah Dissa est de développer une formule de commercialisation de scooters et de voitures avec des batteries électriques adaptées aux fortes chaleurs du Burkina Faso.
Et la chronique de Frédéric Gara, l'Afrique en marche, est évidemment à retrouver sur notre application RFI Pure Radio. 9h57 ici à Paris, on referme ces 3 heures d'RFI Matin en musique avec Queen Rima et son titre Chocolat. À tout de suite.
Queen Rima. Master Bramsky on the beat.
Ame fani soto fe ororo, ina soto temedi la mane ororo. Nama, luna, ara, siga, hara, fema, teme kankama. Kesa, luna, ara, siga, gineg bata fama, afa bambama. Nama, luna, ara, siga, hara, fema, teme kankama. Il est mon chocolat, n'en touche pas mon pain à moi. Le gars il est sucré, il est mielleux. Fa fentene la siaira mula kana mangine binyama amam fatarene a fatarene a fata bere bere de salima il sait jouer il sait jouer il sait jouer sur le canapé amam fatarene a fatarene a fata bere bere de salima il sait jouer il sait jouer il sait jouer sur le canapé. Il est mon chocolat, on touche pas mon pain à moi. Le gars il est sucré, il est mielleux.
Quand il passe mon café, un big bomba. Défait d'une vraie bomba. Tic tac, mon nom est bonbon.
Il n'a ma bébé, bédara, ma didin, kéré, nangara, naranou bébé, bédara, nerebe, fayanara, guiné, biringue, moutouche, mangue, tantonin, andorara, asarini, kéré, nantagerema.
Queen Rima qui nous met l'eau à la bouche avec son titre Chocolat. C'est la grande gagnante, je vous le rappelle, du prix RFI Découverte 2025. Et c'est ainsi que se referment ces 3 heures d'RFI Matin. Merci à Jean-Pierre Pellon, à la réalisation, à François Ballarin, à la rédaction en chef. Demain, vous retrouvez à la même heure Andréane Mélard et dans un peu moins d'une minute sur RFI, le journal de Jeanne Bartoli. Vous aurez les résultats, normalement, du Marathon de Paris.
Musique du monde, Laurence Alloire.
Deux belles personnalités de la chanson française sont les invités de la session live, Mathieu Bogarts et Albin de la Simone. Mathieu Bogarts sort grand piano, dont il ne joue pas évidemment, et Albin de la Simone toi là-bas, avec un paquet cadeau de souvenirs d'adolescence comme la reprise de Ma gueule de Johnny Hallyday. Chiche.
Musique du monde.
Chiche.
Laurence Alloire.
Tout à l'heure, à partir de 20h10 TU.
RFI.